On s'est fait introduire à Bassett Furniture, qui est une compagnie qui a plus de 100 ans, une compagnie publique, avec qui on a eu des bonnes affinités, avec qui on voyait qu'on pourrait travailler. Eux voulaient faire l'achat complet de la compagnie et continuer à propulser la compagnie.
Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 230e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que le groupe G7 qui est derrière ce podcast produit également trois autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook de haut niveau. Commercial est un podcast 100% orienté commerce électronique. Et le dernier en date provenant d'une acquisition, No Pay, No Play, un balado qui introduit les acheteurs médias à la publicité sur les plateformes de Meta. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques, venez discuter en direct avec moi sur LinkedIn. À chaque semaine, je discute avec des dizaines d'entre vous et les discussions nous amènent continuellement à trouver des nouvelles approches afin de faire croître votre entreprise. Le timing en affaires est d'une importance capitale. On peut avoir une bonne idée, mais si le marché n'est pas prêt à aller à la même vitesse que vous, vous risquez de trouver le temps long. Mon invité du jour, Jean-Claude Renaud, cofondateur de l'entreprise Noah Home, est avec nous aujourd'hui pour nous expliquer comment son entreprise a su bénéficier de l'arbitrage publicitaire qui s'est dessiné au début des années 2010, spécifiquement sur Facebook. Noah Home, qui vend des accessoires pour la maison, a été capable d'atteindre plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires annuels dans des pays comme Singapour, l'Australie, le Royaume-Uni, ou encore le Canada. L'entreprise a finalement été acquise à l'automne 2022 et Jean-Claude a eu la gentillesse de nous expliquer le trajet donc fascinant de l'organisation. Sans plus attendre, ma discussion avec Jean-Claude Renaud. Jean-Claude Renaud, vous êtes cofondateur et chef des opérations chez Noah Home, une boutique en ligne qui se spécialise dans les matelas, sofas et accessoires pour la maison. Lancée en 2016, l'organisation a vécu une hypercroissance jusqu'à atteindre 22 millions de revenus annuels en 2022 avant de vendre l'entreprise au géant américain Bassett. Jean-Claude Renaud, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci de me recevoir.
Jean-Claude, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette très belle histoire de croissance, est-ce que c'est possible pour toi de bien expliquer à notre audience ce qui a fait le succès de Noah Home à travers les années?
Un bon partnership. Donc, moi et mon associé, on avait les deux piliers essentiels au succès de la business. Mon associé, Jérémy Kopek, lui, il était un des leaders chez Structube. Donc, il est pratiquement né dans un magasin de meubles. Il y avait des contacts partout dans le monde, dans le domaine. Par le mandarin, puis il en mange du mobilier. Puis moi, de mon côté, j'avais beaucoup d'expérience dans le e-commerce, le growth hacking. Donc, j'étais dans ce domaine-là. Puis je pense qu'ensemble, on avait les deux éléments nécessaires à monter cette business-là.
C'est tellement une bonne réponse. Et c'est vrai, souvent un partnership, ça provient d'une excessivement bonne complémentarité. Mais Jean-Claude, on peut voir que Noah Home, ça n'a pas été ta première entreprise. Tu es derrière la création de la vie urbaine, qui j'imagine, c'est de là que provient ton expérience en e-commerce. Donc, la vie urbaine, une organisation que tu as fondée en 2010. Peut-être tu peux nous ramener à ce moment-là et nous parler de la genèse derrière la création de l'entreprise.
Ouais, je sais pas, Antoine, si tu te souviens de ce qui se passait en 2009-2010. Le hype train à ce moment-là, c'était le web 2.0. Mm-hmm. Puis juste d'en parler aujourd'hui, ça me fait rire parce que ça paraît vraiment lointain. On est déjà passé à travers le web 3.0 il y a un an ou deux. Mais il y avait eu évidemment la phase du web 1.0 où est-ce qu'on avait cassé le moule de l'achat en ligne avec Amazon, Zappos, évidemment Google. Puis je pense à cette période, les gens avaient accepté le fait d'acheter des produits en ligne. Et puis, je savais en 2008-2009 que la prochaine étape serait probablement d'acheter des services. Et puis, Groupon, qui venait de lancer aux États-Unis, il n'était pas encore au Canada. Puis, une autre chose qui va faire rire tout le monde, c'est que Groupon, en 2008-2009, c'était la startup la plus hot après Facebook et tout. Évidemment, je pense que j'ai été opportuniste. J'ai voulu les battre à leur arrivée au Canada. Puis, effectivement, il y avait vraiment une demande à ce niveau-là. Donc, l'achat de services, de certificats cadeaux en ligne, ça a été un succès immédiat.
Et bon, je pense que tu diriges l'entreprise pendant 7-8 ans avant de finalement la vendre. Peut-être que tu pourrais nous dire si t'es rendu à quel type de grosseur au moment de la vente. Est-ce que c'est une entreprise qui avait beaucoup d'employés? Est-ce que tu avais des parts de marché dans plusieurs endroits géographiques? Comment c'était devenu un peu la vie urbaine?
Donc, l'entreprise à son high, au pic, c'est une entreprise qui était bootstrappée, premièrement. Puis, l'entreprise a généré des revenus rapidement. Donc, il n'y a pas vraiment eu besoin de faire du financement ou quoi que ce soit. C'est une entreprise qui était profitable et qui a toujours été profitable. À son high, l'entreprise a généré jusqu'à 7 millions de dollars de ventes totales annuelles en bons d'achat. Et puis, ensuite, le modèle d'affaires a commencé à avoir des challenges. Il y avait beaucoup de compétition. Les barrières à l'entrée étaient assez basses pour se partir une compagnie de vente de coupons en ligne. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont embarqué dans ce modèle d'affaires-là. Et puis, je pense qu'il y a eu un petit peu de fatigue aussi. Donc, au niveau des infolettres. Et puis, il y a eu une fatigue, je dirais, de ce modèle d'affaires-là. Puis, on a développé la business de toutes sortes de façons. On a commencé à vendre des produits. On a commencé à offrir un service de réservation au restaurant. On avait, je dirais, jusqu'à une douzaine d'employés. On avait des petits bureaux à Québec. On opérait dans toutes les grandes villes du Québec. Et puis, c'était une belle petite business qui était profitable et puis qui avait atteint un seuil de maturité. Puis, moi, j'avais 30 ans à ce moment-là. Donc, moi, j'étais pas mature. J'étais pas prête à gérer une business qui était à maturité. Donc, j'avais besoin probablement d'un autre défi, de quelque chose qui m'amènerait un nouveau challenge.
Et c'est en 2018 que tu l'as finalement vendu, je crois, à l'entreprise.
Oui.
Et à ce moment-là, je crois, et corrige-moi si je me trompe, que c'est un peu grâce à la vie urbaine que s'est créé Noah Home, parce que tu me disais que les tests de produits se sont faits via, je crois, l'infolettre de la vie urbaine. Peut-être ramène-nous à cette transition de je vends l'entreprise, je fais des tests pour une prochaine organisation, parce que je pense que l'histoire est assez croustillante ici.
Absolument. Puis justement, dans nos tests de produits, un des produits qui marchait le mieux pour nous, c'était les matelas. Puis le mobilier pour la maison, on vendait de la literie, on vendait toutes sortes de produits. Et puis à ce moment-là, j'ai contacté quelqu'un chez Structube qui est devenu mon associé. Puis lui venait de quitter Structube et il faisait de la consultation à ce moment-là. Et puis, ce qui est mon associé Jérémy, je lui ai demandé un coup de main pour sourcer des produits en Chine. Et puis, on a découvert qu'on travaillait assez bien ensemble. On a vu qu'il y avait une opportunité de faire du e-commerce dans le domaine du mobilier. On voyait que ça commençait. C'était un des domaines où il n'y avait pas eu beaucoup de développement à ce niveau-là. Il n'y avait pas beaucoup de compagnies. Il y avait des compagnies qui commençaient à naître et à avoir beaucoup de succès en Amérique du Nord. Donc, on a vu qu'il y avait une opportunité. Lui, il avait des choix à faire dans sa carrière. Moi, j'ai vu l'opportunité de développer quelque chose dédié au mobilier. On a exploré toutes sortes de modèles d'affaires, dont faire du mobilier pour enfants. Donc, on avait toutes sortes d'idées de niches et puis de trucs qu'on voulait explorer. Finalement, on a décidé qu'on partirait un modèle un peu, encore une fois, opportun dans le domaine du mobilier, de vendre des matelas dans des boîtes qui commençaient à être un phénomène qui explosait ici en Amérique du Nord. Puis, quelque chose que personne faisait ailleurs dans le monde.
Mais avant de l'avoir lancé en Amérique du Nord, je pense que c'est à Singapour que vous avez fait vos premières ventes. Là, toi, tu me disais que tu étais à Montréal, exact. Tu opérais l'organisation de Montréal, mais tu commercialises ou du moins tu choisis de commercialiser l'organisation dans le sud de l'Asie. Là, qu'est-ce qui t'a poussé à avoir cette réflexion-là? J'imagine qu'il devait y avoir des opportunités, mais tout de même, c'est assez exceptionnel de le faire comme ça.
Absolument. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça ridicule comme idée. Puis, il y a plusieurs raisons qui nous ont portés à commencer nos opérations à Singapour et à Hong Kong dans le temps. La première chose, c'est qu'on voyait qu'il y avait personne qui faisait ça là-bas. Donc, on voyait que c'est un marché qui était prêt en, 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 en ébullition, où il y avait une bonne adoption de e-commerce, puis personne qui faisait la vente de mobilier online là-bas. Puis un des challenges de vendre du mobilier online, c'est de bouger la dite marchandise du point A au point B. Mm-hmm. Puis le meilleur exemple pour décrire un marché qui est difficile à ce niveau-là, c'est le Canada. Donc, si on fait une vente à Vancouver et puis que notre entrepôt est à Mississauga, il y a des coûts reliés à ça.
Bien sûr.
Donc, le fait qu'il y avait une densité de population dans ces marchés-là a rendu notre démarrage vraiment facile. Donc, on pouvait avoir un entrepôt, desservir des millions de personnes avec un seul transporteur. Donc, c'était des opérations qui étaient vraiment simples. Et puis, il y avait aussi un arbitrage au niveau du coût publicitaire. Donc, je sais que vous êtes expert là-dedans chez J7, mais les coûts par mille dans le temps à Singapour puis à Hong Kong, on parlait de 4-5 $. Ça semble complètement dingue aujourd'hui, mais c'était vraiment un arbitrage qui nous a permis de scaler la business à bon prix, si on veut.
Intéressant. Puis tu prends tes premières parts de marché là-bas, mais combien de temps ça prend tout ça? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, la business a grandi quand même assez rapidement, là.
Ouais, exactement. Donc, les choses ont levé rapidement et puis, donc, ça s'est très bien passé. Puis, le marché qu'on a ouvert après Singapour et Hong Kong, ça a été l'Australie. Et puis, donc là, on parle de 2017, 2018 à 2020, où est-ce qu'on commence à avoir beaucoup de traction en Australie. Et puis, évidemment, en 2020, il y a eu la pandémie.
Bien sûr.
Puis la pandémie est venue vraiment changer beaucoup de choses, apporter du bien et du mal. Puis le fait qu'on soit en Australie, qui était un pays où il y avait beaucoup de contraintes lors de la pandémie, donc les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux, même pour aller magasiner, les magasins étaient fermés. Donc légalement, les gens étaient forcés de magasiner en ligne. C'est pas juste que les gens, je pense que partout dans le monde, les gens ont passé plus de temps chez eux. Donc, ça a été bon pour le mobilier en général. Donc, le retail de mobilier a été vraiment aidé par la pandémie. Mais en Australie, c'est encore plus vrai étant donné que les gens étaient forcés de magasiner en ligne et passaient énormément de temps à la maison. Donc, ça a vraiment propulsé Noah à la vitesse grand V. C'est cette année-là qu'on a décidé d'ouvrir le Royaume-Uni et ensuite le Canada pour Noah. Donc, ça a été, ça s'est passé très vite. Je le raconte rapidement, mais dans la vraie vie aussi, ça s'est passé très, très rapidement. On a ouvert ces marchés-là. Puis à ce moment-là, on n'est toujours pas fundé. Donc, on a reçu aucun financement. On a réussi à ouvrir ces marchés-là, scaler la business, acheter beaucoup d'inventaire avec les revenus générés par la business.
Bon, j'ai quelques questions pour toi qui pour moi sont assez importantes de répondre. Premièrement, les tendances dans le sud-est de l'Asie. Donc, on est, tu enregistres le podcast en ce moment, tu es du Canada, je suis du Canada moi aussi, on a une culture nord-américaine. Singapour, c'est peut-être ce que de plus nord-américain en Asie, soyons honnêtes. Ouais. Comment ça se déroule là-bas? Est-ce qu'on doit changer un petit peu notre approche? Et peut-être même par la suite, je serais curieux de t'entendre sur l'Australie.
Oui, on a choisi Singapour à cause qu'il y avait beaucoup de similarités avec notre culture ici. Donc, c'est la langue nationale, c'est l'anglais. Donc, je pense que au niveau de la culture, c'est un marché qui est vraiment intéressant. C'est un marché qui est dynamique, où il y a des excellents revenus, où il y a pas, on est loin des États-Unis et puis de la compétitivité américaine. Donc, aux États-Unis, il y a beaucoup de business qui sont financés. Il y a beaucoup de géants. Puis si je peux insérer un commentaire par rapport à l'Australie, par exemple, en 2020, Amazon n'est pas en Australie. Donc, il n'y a pas de Prime, c'est incroyable. Donc, il y a un simili Amazon. Donc, c'est vraiment insulaire, c'est isolé.
Donc c'est un autre type d'arbitrage ici. Tu parlais d'arbitrage publicitaire, mais il y a un autre type d'arbitrage au niveau de la capacité à recevoir des biens, là.
Les Américains s'intéressent pas à ces marchés-là. Il y a des joueurs dans l'e-commerce, dans ces marchés-là, par exemple Lazada, Shopee, des énormes joueurs, mais ces joueurs-là sont pas aussi dominants et menaçants qu'Amazon ou d'autres brands aux États-Unis qui font très bien dans le mobilier. Il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de compétitivité, de créativité et d'excellents talents et joueurs et de je veux dire de bon marketing.
Bien sûr.
ici en Amérique du Nord, il y a peut-être moins de la barre est moins haute dans ces marchés-là. Puis à part les fuseaux horaires, vraiment, il y a pas vraiment de barrière qui nous empêche ici au Québec ou à Montréal d'opérer des business électroniques comme de e-commerce ou de software ailleurs dans le monde. Donc c'est une barrière de langue, une barrière de time zone. Mais à part ça, il y a aucune raison. On peut embaucher partout, on peut sous-traiter, on peut bouger. Les gens sont beaucoup plus mobiles qu'avant. Donc ouais, nous autres, on était prêts à dealer avec la nouvelle réalité qu'a amené la pandémie avant qu'elle arrive.
Et parlons un petit peu d'infrastructure dans ce cas-là. Donc, on s'entend, vous êtes des opérateurs en Amérique, vous vendez en Asie, vous vendez en Australie. Ça doit être une infrastructure qui est assez simple. Vous travaillez avec quoi? Des 3PL? Vous avez peut-être une entreprise avec des employés 100% distribués? Ça ressemble un peu à ça, j'imagine, ce que vous avez.
C'est exactement ça, Antoine. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu moins les 3PL, c'est une impartition de logistique, dans le fond. Puis oui, on travaille avec ce type d'entreprise-là. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est ils entreposent nos biens. Et ils vont livrer nos commandes aux clients qui font des achats sur notre site web. Et puis, tout se fait automatiquement. Donc, les commandes rentrent sur notre site web. Puis, on faisait ça chez Biurban, d'ailleurs, avec une entreprise ici à Montréal. Les commandes rentrent sur le site web et sont automatiquement envoyées à ces compagnies de 3PL-là. Et puis, eux autres, ils sont capables de remplir les commandes, donc de contacter les clients si nécessaire, organiser une livraison rapide et puis gère dans le fond cet aspect-là de la business. Donc, c'est pas nos employés, mais tu as raison, d'opérer une business comme Noah, même qui est rendu à quelques dizaines de millions, ça prend plus, en 2023, ça prend plus de plusieurs dizaines d'employés ou centaines d'employés. On est capable d'opérer ça à 8, 10 personnes de façon très efficace, sans nécessairement se lancer dans quelque chose qui est très complexe au niveau des ressources humaines. Faut pas oublier, encore une fois, nous autres, on est bootstrappés. On fait ça, jusqu'à récemment, on a fait ça avec nos propres fonds. Et puis, on voulait pas se lancer dans des dépenses inutiles.
Vous avez un gros loyer publicitaire, mais pour le reste, au niveau RH, ça se gère bien. On va dire ça comme ça.
Exactement. Puis c'est drôle que tu emploies le terme loyer publicitaire parce que souvent on compare notre business avec des retailers traditionnels et puis on trouve souvent qu'on dépense trop en publicité. Mais si on se console parce qu'on sait que si on avait des magasins, des employés, des gérants de magasins, on aurait des grosses dépenses à ce niveau-là aussi.
Oui, et ce serait des coûts fixes. Un loyer publicitaire, c'est un coût variable. Donc, au final, ça va à la vitesse de croissance, également à la vitesse que le marché a de la demande. Donc, c'est quasiment mieux, là.
C'est tellement bien dit. C'est élastique. Donc, en 2020, nous autres, on a été capables d'embarquer sur le manège de la croissance, bien si sûr. Tu veux. Et puis, quand il y a eu la crise de logistique et puis des containers en 2021, on a été capable de ralentir sans qu'on soit complètement étouffé.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer
d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.g7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours.
Je crois qu'en date d'aujourd'hui, Jean-Claude, vous continuez à vendre, bien entendu, à Singapour. Vous êtes en Australie. Vous êtes au Royaume-Uni également maintenant et également au Canada.
Oui, oui, exactement.
Quels sont les marchés qui peut-être témoignent d'une plus forte croissance, des marchés qui ont un petit peu plus d'appétit? Ce serait quoi un petit peu peut-être ta vision, ta réflexion sur les différents marchés que vous opérez en ce moment?
Je pense que le Canada, pour nous, c'est définitivement le marché qui est le plus prometteur. Beaucoup de dynamisme. Donc, il semble qu'on soit... on est parti de loin pour revenir au point de départ. C'est le meilleur marché pour nous, le Canada, tout simplement. Le Royaume-Uni, c'est un marché qui est très intéressant. Il y a eu beaucoup de fluctuations dans la devise. Donc, c'est assez rock and roll à ce niveau-là. La devise fluctue quasiment plus que le Bitcoin là-bas. Mais c'est un marché qui est intéressant. Encore une fois, c'est un marché insulaire. Mm-hmm. C'est un marché où il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Il y a une VAT élevée. Donc, il y a 50 raisons présentées aux compagnies américaines pour pas aller faire de la business au Royaume-Uni. Donc, nous autres, on s'est dit, c'est parfait pour nous. On aime ça, faire les choses compliquées, d'aller là où les Américains ou les grandes entreprises veulent pas aller. On voit pour eux ce que eux les dégoûte. Nous, ça nous donne l'appétit. Donc, le Royaume-Uni, c'est très intéressant aussi. C'est le troisième plus gros marché de e-commerce au monde après la Chine et les États-Unis. C'est un marché où il y a une bonne densité de population dont on parlait tantôt. Et c'est un marché qui a des très bons moyens.
Bien sûr. Il y a un pouvoir d'achat qui est important.
Il y a un très bon pouvoir d'achat. Et une devise qui était, au moment où on a fait notre décision, il y a une devise qui était très, très, très avantageuse. Depuis, ça s'est réservé, mais c'est encore un marché qui est très intéressant pour nous autres.
Mais c'est tellement fascinant. Tu vois, récemment sur le podcast avec mon collègue Jonathan Léveillé, on parlait de... un peu de la stratégie de l'analyse de l'océan rouge et de l'océan bleu. Donc, un océan rouge, c'est quand il y a beaucoup d'entreprises qui se battent pour les mêmes parts de marché. Au final, ce que ça crée, c'est simplement une dynamique de prix. Ou est-ce que pour te démarquer, tu essaies d'avoir des prix un petit peu plus avantageux? Souvent, des choses qui vont arriver dans des marchés très compétitifs comme les États-Unis. J'ai l'impression que vous, de votre côté, vous allez davantage dans des océans bleus, des endroits où est-ce que pas encore beaucoup de requins qui essaient de se battre, qu'un petit peu plus de place pour aller chercher des parts de marché. C'est comme ça que vous êtes capable de tracer votre chemin, là.
C'est exactement ça. Puis, dans le fond, j'aimerais ça te dire que on est des génies d'avoir pensé à ça, mais le fait qu'on était bootstrappés, ça nous a forcé à aller dans cette direction-là. On n'a pas eu le choix d'être un peu plus, d'aller chercher des marchés où il y avait moins de requins parce que, évidemment, ça nous laisse de la place pour aller chercher des parts de marché à bon prix. Donc, oui, ça amène des complexités au niveau des fuseaux horaires, au niveau, OK, il fallait que tu sais, gère la business le soir ou tôt le matin. Il y avait, oui, un peu un moule à casser, si on veut, où les gens aux États-Unis, dans les marchés qui sont mûrs pour le e-commerce, il n'y a pas d'éducation à faire. Donc, quand tu crées ta stratégie marketing, tu prends pour acquis que les gens, ils savent ce que tu fais. Dans ces marchés-là, il y a un petit peu d'éducation à faire puis beaucoup d'assurance, donc de rassurer les clients pour leur dire « Inquiétez-vous pas, si vous payez en ligne, ça s'en vient chez vous, soyez rassurés, votre achat est garanti, vous avez droit à un remboursement s'il y a quoi que ce soit, voici un numéro de téléphone s'il y a quoi que ce soit. » Il faut vraiment, il y a beaucoup de job de sécuriser les visiteurs sur le site web et puis les clients. Peut-être un job qu'aux États-Unis, des gens prennent pour acquis, savent qu'ils sont à un coup de fil d'appeler leur banque si jamais il y a quoi que ce soit avec leur transaction, ils sont beaucoup moins méfiants.
Non, mais écoute, je trouve ça totalement fantastique comme approche. Et bon, j'aimerais revenir un petit peu au volet équipe. On le dit, c'est des organisations qui peuvent se gérer avec quelques joueurs. Donc, clairement, ton poste de dépense numéro un ne seront pas tes ressources humaines. Au final, ça ressemble à quoi? L'équipe de Noah, combien de personnes? Qu'est-ce qui est fait à l'interne? Qu'est-ce qui est fait peut-être en impartition? Et également, est-ce que c'était planifié?
Oui, c'était planifié qu'on reste une équipe qui était petite et efficace, étant donné qu'on voulait pas se lancer dans une grande entreprise avec des middle managers, des choses comme ça. Peut-être une parenthèse à ce niveau-là, quand nous autres, on a bâti l'équipe, on voulait vraiment, nous-mêmes, moi et Jérémy, on est assez débrouillards, puis on aime ça un peu, se salir les mains, donc apprendre à faire les tâches. Puis souvent, quand on cherche des gens pour nous accompagner, puis quand on fait de la croissance, il y a beaucoup de gens qui ont géré des gens, mais qui connaissent pas techniquement quoi faire avec ce qu'ils ont géré. Donc, à ce niveau-là, c'était assez difficile. Donc, nous autres, ça nous prend des gens qui, quand on a une petite équipe, sont capables de, oui, prendre des décisions, mais aussi d'exécuter eux-mêmes le travail. Donc, pour répondre à ton autre question, qui est, ça ressemble à quoi l'équipe? Pour nous, c'est vraiment, on a une équipe de service à la clientèle ici, à Montréal et Outre-mer. Donc, on a, je dirais, 2-3 personnes ici à Montréal dédiées à ça, une petite équipe Outre-mer, parce qu'on veut couvrir tous les fuseaux horaires. Donc, 24 heures sur 24. On veut être capable d'assister les gens qui sont en train de faire un achat à plusieurs milliers de dollars sur notre site web au cas où il y ait une question, une inquiétude ou quoi que ce soit. On a aussi un service de consultation en ligne. Donc, on a quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui connaît nos produits, qui est capable d'assister les gens dans leur processus de vente. Donc, on utilise Calendly pour ça, qui est un outil génial. On a quelqu'un, évidemment, en finance, mais on utilise aussi donc des teneurs de livres. Au niveau des opérations, on a des gestionnaires d'opérations chez nous, mais on touche pas vraiment aux opérations quotidiennes. Donc, comme on parlait tantôt, on a des opérateurs 3PL. On veut pas toucher à ça. Nous, je sais qu'il y a des compagnies dans mon domaine qui, eux, pensent qu'ils vont pouvoir faire des économies d'échelle à ce niveau-là. Pour nous, on préfère laisser ça à des gens qui ont vraiment envie, parce que ça, c'est un art en soi. Donc, on veut laisser ça aux gens, aux professionnels, puis aux gens qui ont envie aussi de faire ça, parce que c'est une job en soi, faire du 3PL. Il y a beaucoup de ressources humaines là-dedans. Il y a beaucoup de complexité que nous, on n'avait pas envie de faire. Puis selon nos calculs, il n'y a pas vraiment d'économie à réaliser à ce niveau-là. Donc, ça, c'est tout imparti. Au niveau marketing, on a moi et j'ai une coéquipière, Émilie Lafetière, qui va gérer un peu les opérations marketing. Et on travaille évidemment avec des agences comme G7 Media au niveau de nos Facebook Ads et compagnie.
Donc, en gros, vous gardez quand même la même mise sur certains projets, mais il y a des trucs qui, intentionnellement, vous donnez en impartition et vous les gardez ça comme ça.
Oui, puis on n'a pas l'intention de s'approprier, même si notre business est en croissance, c'est pas des choses qu'on veut ou qu'on a l'intention de s'approprier afin de faire une économie de quelques pourcents, parce que ça cause plusieurs maux de tête puis qu'on risque de perdre notre focus sur, ouais, exactement sur le but ultime. Pourquoi pas laisser ça à des gens qui focusent uniquement sur optimiser les livraisons dans un certain secteur qui, eux, ont des Antoine et des Jean-Claude qui passent leur journée à trouver comment optimiser les livraisons, l'entreposage et tout ça. Donc, pour nous, c'est une évidence. Donc, avec tout ça, on est, je dirais, 8, 9.
C'est fantastique.
Puis on n'a pas besoin de plus de monde que ça nécessairement. Puis on est capable même de regarder des nouveaux projets avec une petite équipe. On est capable d'ajouter des nouveaux produits. Ah oui, ça fait partie des choses qu'on a imparties aussi. Évidemment, la création de photos, vidéos et compagnie. On a une équipe qui fait ça.
Ah, c'est fantastique.
Impartie.
J'adore les petites équipes comme ça qui sont capables d'être dons efficaces parce qu'elles travaillent ensemble. Il n'y a pas 12 départements qui ont besoin d'approuver un certain contrat. On a une idée le matin, on l'exécute en après-midi et on itère continuellement autour de ça. C'est fantastique. Et bon, parlons un petit peu de l'évolution. On l'a vu, tu lances l'organisation de Montréal, tu commences à vendre à Singapour, tu t'intègres en Australie, au Royaume-Uni, au Canada. Ultimement, tu l'as mentionné, vous êtes bootstrappé et vous atteignez 22 millions de revenus.
Donc, à un certain point, il doit y avoir peut-être des enjeux de liquidité parce que si on veut atteindre autant de revenus, on est une organisation qui, soyons honnêtes, a besoin d'injecter beaucoup en publicité pour aller chercher ses parts de marché. Il doit y avoir des questions de votre côté de se dire, est-ce qu'on va chercher un partenaire qui a les poches pleines, qui peut nous aider à aller chercher cette croissance-là? Comment les réflexions se sont déroulées de votre côté et peut-être nous dire au final quelles ont été vos décisions?
Depuis le début, moi et mon associé Jérémy, on était toujours très fiers d'être une compagnie bootstrappée, self-fundée par nos revenus. Et puis, comme tu dis, oui, il y a des investissements publicitaires pour la croissance, mais aussi des investissements au niveau de l'inventaire.
Donc, si on
pense qu'on va vendre le double de ce qu'on vend en mai pour le Black Friday, il faut que mon associé achète de la marchandise aujourd'hui. Donc, il faut qu'on paye cette marchandise-là lorsqu'elle arrive, part en août, en septembre. Il faut la dédouaner, compagnie. Donc, il y a beaucoup de challenges de liquidité qui viennent avec la croissance. Et on est arrivé à un moment donné en 2021-2022 où les prix des containers, qui un des éléments qui est à la source même de l'inflation énorme. Donc, nous, on l'avait vu venir 6 mois avant l'inflation, étant donné que les prix des containers ont explosé de 1000%. Donc, les prix des containers ont fait littéralement x10 quasiment. Puis nous, notre entreprise, on bouge environ 200 containers par année.
Wow.
Donc, évidemment, ça fait un trou de au moins 7 chiffres comme il faut, qui était un énorme imprévu. Puis à ce moment-là, on a décidé de faire une ronde de financement. On a été contraint de la faire, puis on a accepté de faire ça en 2022, qui était, ou en fin 2021, début 2022. Puis je pense que quiconque a pris la décision au niveau du timing de faire ça à ce moment-là, c'est le pire timing des 20 dernières années, je pense, pour faire une levée de fonds de loin.
Bien sûr.
Donc, on a fait nos pitchs. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient un petit peu d'intérêt, mais pas le fit n'était pas là. Puis il n'y avait plus vraiment de compagnie de VC ou de private equity qui était en train de faire beaucoup de mouvements. Et puis, on s'est fait introduire à Bassett Furniture, qui est une compagnie qui a plus de 100 ans, une compagnie publique, avec qui on a eu des bonnes affinités, avec qui on voyait qu'on pourrait travailler. Eux voulaient faire l'achat complet de la compagnie et puis continuer à propulser la compagnie, puis qu'on puisse continuer la rêve, si on veut, de Noah Home. Puis je pense que le fit était bon. Puis eux sont exceptionnels dans la manufacture de mobilier de haut de gamme. Ils ont une très belle chaîne de magasins aux États-Unis. Et puis ils voulaient se numériser à travers Noah. Puis nous autres, on avait besoin peut-être de eux pour continuer à faire croître la business. La condition, évidemment, c'était qu'on vende la business. Ce qu'on a décidé de faire.
Ça a dû être une décision difficile, là. Toi qui voulais lever de l'argent et vendre l'entreprise. Peut-être qu'au final, c'était ce que tu voulais, mais tout de même, ça a dû être quelque chose qui a dû te chambouler, là.
Oui, ça nous a chamboulé parce que on aurait le timing, il était vraiment pas idéal, mais on se console du fait qu'on est très heureux des gens avec qui on a fait la deal. On est heureux, on a plein de projets super excitants avec eux. On est en train de lancer les États-Unis. On a une belle machine derrière nous. On a des gens qui nous supportent puis qui en même temps nous donnent la liberté qu'on voulait. Donc, c'est vraiment une belle acquisition. Mais comme tu dis, Antoine, c'était peut-être pas au niveau du timing, c'est sûr que c'était probablement le pire timing pour faire ce move-là.
Mais en même temps, soyons honnêtes, et la transaction est rendue publique. Donc, tous les gens sont capables de voir les chiffres. Vous avez quand même vendu l'organisation plusieurs millions de dollars. Ouais. Une organisation que vous avez bâtie en 4-5 ans au moment de la transaction. Donc, 4-5 ans pour au final vendre ça plusieurs millions de dollars. Ouais. C'est un excellent succès. C'est très beau et beaucoup d'entrepreneurs rêvent d'atteindre ça un jour. Félicitations, là.
Merci. On est content. Honnêtement, ça aurait pu être pire. Il y a beaucoup d'entreprises de e-commerce dans les dernières années qui ont passé un pire quart d'heure que Noah Home.
Ils ont simplement fermé, bien sûr. Ils ont simplement fermé, là.
notre compétiteur principal en, au Royaume-Uni, qui est Made.com, qui était un des premiers à faire du mobilier sur le web, un magasin que moi j'adore, a fermé ses portes. Donc, il y a beaucoup de compagnies, même Warby Parker, les compagnies publiques dans le e-commerce qui ont passé un très mauvais lendemain de pandémie. Puis nous autres, on est contents d'avoir fait notre... Avec le recul, on est contents d'avoir fait notre move.
Et vous devez rester dans l'entreprise pour 3 ans, je crois bien, c'est ça?
Oui, oui.
Parfait. Puis ça, c'était quelque chose que vous étiez à l'aise de faire? Est-ce que c'était quelque chose que vous
donnait...
Vous vouliez rester?
Oui, on voulait rester dans l'entreprise. On voulait... C'était un peu aussi une consolation. Nous autres, initialement, on voulait faire une levée de fonds puis
bien sûr.
Amener ça où on pensait que ça pouvait aller, cette histoire-là, nos ronds. Puis même si on n'est plus actionnaire de la business, on peut quand même réaliser le rêve de nos ronds puis d'amener ça où on pense que ça peut aller avec Bassett. Mais ça porte quand même le prénom du fils à mon partner Jérémy. Puis je pense qu'il y a, un petit peu de une envie, si on veut, d'amener ça au maximum de son potentiel.
Et c'est quoi la suite pour les 24-36 prochains mois de l'entreprise? Qu'est-ce que vous avez dans les plans?
Lancement des États-Unis. On vient d'étendre notre réseau de distribution au Canada à l'Ouest canadien. On veut continuer à développer notre ligne de produits avec Bassett, qui fait des produits exceptionnels aux États-Unis. On veut élargir notre offre de produits, faire plus de dining room, des chaises, on veut faire plus de types de produits, de gammes de produits. Donc, c'est pas le travail qui manque à ce niveau-là. Puis, on a des gens qui ont non seulement les capacités financières de nous accompagner là-dedans, mais on a aussi des gens qui ont des usines pour faire les produits qu'on veut faire.
C'est un très gros avantage. Je t'aimerais des petites questions personnelles. Est-ce que tu es un amateur de lecture, Jean-Claude?
Je lis beaucoup de newsletters.
Oh, lesquels?
Je lis une newsletter qui s'appelle Charter. Donc, c'est beaucoup de diagrammes. J'aime beaucoup une newsletter payante qui s'appelle Trends.co, qui est super intéressant pour les gens qui aiment brainstormer sur les idées d'affaires, les tendances de marché, compagnie. C'est super, super intéressant.
Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu?
Tout à part Hyper Croissance.
Les podcasts qui sont dans tes écouteurs, ouais.
Il y en a un, j'ai beaucoup d'intérêt pour l'intelligence artificielle en ce moment. Donc, il y a un podcast qui s'appelle Hard Fork, qui est super intéressant. Puis, un autre complément différent qui est How to Take Over the World. Donc, c'est des biographies de gens célèbres. Donc, c'est quelqu'un qui lit plusieurs biographies sur, par exemple, Jules César ou la famille Rothschild, puis qui va les résumer dans des podcasts de 2-3 heures. C'est super intéressant. Ça s'appelle How to Take Over the World.
Je connaissais pas. Je vais aller jeter un petit coup d'œil. Fantastique. Et routine, à quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail?
On est tous des lèvres tôt chez Noah. Donc, pour moi, c'est lever immédiatement travail. Donc, je suis devant mon ordinateur. Je sais que c'est pas bon de se jeter devant l'écran tôt le matin, mais c'est là que mon cerveau fonctionne le mieux. Donc, je me réveille, je prends mon café, je suis devant mon ordinateur à 7 heures. Donc, c'est terrible, faites pas ça. Puis, je pense que de toute façon, à partir de 4 heures, mon cerveau devient de moins en moins fonctionnel. Et puis, je fais beaucoup de surf sur la rivière à Montréal. Donc, je vais là après le travail quand je peux.
OK. Donc, j'adore l'idée de trouver une manière de sortir un petit peu de cet environnement de travail-là à la fin de la journée. Très belle approche. Jean-Claude, si on veut en apprendre un petit peu plus sur vos différents produits, c'est Internet, j'imagine, Noah Home?
NoahHome.com.
NoahHome.com. Allez jeter un petit coup d'œil. On le sait maintenant, il livre partout au Canada. Donc, allez jeter un petit coup d'œil pour les gens qui nous écoutent. Jean-Claude Renaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une histoire fantastique, ce que vous avez été capable de faire avec Noah Home. Une organisation qui est partie d'une idée, d'une complémentarité entre deux partenaires qui finalement, quelques années plus tard, réussit une sortie à plusieurs millions de dollars avec un géant américain. C'est honorable, c'est même exceptionnel. Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui avec nous. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.
Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.